Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 20 décembre 2023. Il est 5h30 en temps universel. Voici le sommaire. En RDC, les Congolais votent ce mercredi pour des élections générales à haut risque auxquelles le président sortant, Félix Tshisekedi, se représente face à une opposition morcelée dans un climat politique et sécuritaire tendu. Nous consacrons une partie de ce journal à cette journée de vote avec nos envoyés spéciaux et correspondants sur place. Je vous le disais, en République démocratique du Congo, près de 44 millions d'électeurs inscrits sur un total d'environ 100 millions d'habitants sont appelés ce mercredi à élire leur président, mais aussi leurs députés nationaux et provinciaux, et pour la première fois, leurs conseillers communaux. À Kinshasa, les bureaux de vote sont déjà théoriquement ouverts. Retrouvons dans la capitale congolaise John Lindon, envoyé spécial de VOA Afrique. Bonjour John.
Bonjour Mouamadou Oumfa.
Quelle est l'ambiance à Kinshasa où vous vous trouvez?
Alors, c'est une ambiance de jour d'élection qui commence. La température est bonne, il ne pleut pas et je crois que c'est déjà en soi une réussite que les élections aient lieu aujourd'hui. Donc, les bureaux de vote sont en train d'ouvrir. Théoriquement, c'est depuis 6 heures. Et je crois qu'on va suivre le déroulement des élections dans la journée. Pas moins de 175 000 bureaux de vote sont concernés dans ces élections, à la fois présidentielles, parlementaires, provinciales et municipales. Donc, tout est bien pour l'instant. Certainement, on pourra relever ici et là quelques petits décalages, mais c'est déjà en soi une réussite que ces élections aient pu se tenir sans qu'on ne les renvoie. En fait.
Alors, John, vous avez couvert la campagne électorale. Quel est l'état d'esprit des Congolais en ce jour d'élection?
C'est un état d'esprit qui est propre à tous les électeurs. On veut le changement. Ceux qui sont au pouvoir veulent garder le pouvoir. Ceux qui sont dans l'opposition pensent qu'ils sont les meilleurs à apporter le changement. Donc, les gens ont battu campagne. Tous les candidats ont battu campagne. Et les électeurs doivent aujourd'hui choisir qui est le meilleur pour remporter telle ou telle circonscription, qui est le meilleur, quel est le meilleur parti qui peut garantir la sécurité, la paix, le développement, qui sont des questions et des thèmes qui ont prévalu durant cette campagne.
Électoral.
Il faut dire que le ministère de l'Intérieur, oui, électoral, le ministère de l'Intérieur a donné une conférence de presse hier, assurant que tout sera fait pour que les élections se déroulent dans un contexte de paix, de calme. Pareil pour la police, le directeur de l'agence policière qui a aussi assuré que ces éléments seront dans les bureaux de vote pour assurer la sécurité des votes et des Congolais.
Voilà. John, rapidement, pour terminer, de nombreux Congolais, y compris des personnalités politiques, ont douté jusqu'à la dernière minute de la tenue de ces différents scrutins. Alors, de votre observation, quel est l'état de préparation de la commission électorale et comment s'annonce l'organisation logistique du scrutin?
La CENI elle-même a reconnu qu'il y avait quelques petits réglages à faire parce que c'est un défi logistique immense. Donc, comme on a pu tenir ces élections, est déjà une réussite. Et c'est pas seulement le cas de la RDC. On sait que partout dans le monde, quand les élections s'organisent, il y a toujours quelques petits couacs. Sans doute qu'il y en aura, mais le plus grand défi a été relevé. Et je pense que les Congolais, pour la plupart, sont contents que ces élections se tiennent. Ça aurait été une catastrophe que ces élections soient renvoyées. Comme cela se disait d'ailleurs quelques jours avant cette date du 20 décembre.
Merci beaucoup, John, envoyé spécial de VOA Afrique à Kinshasa. On vous retrouve dans notre prochaine édition, probablement dans un bureau de vote, pour voir comment les choses se déroulent là-bas à Kinshasa. Retrouvons maintenant à Lubumbashi Narval Mabila, qui est correspondant de VOA Afrique. Bonjour, Narval.
Bonjour, bonjour.
Alors, comment ça se passe à Lubumbashi en ce moment? Quel est l'état d'esprit des Congolais autour de vous?
Sinon, au début, l'ambiance, les gens sont arrivés vers les 4 heures du matin, 5 heures, mais les gens s'inquiétaient déjà. C'est à peine 15 minutes qu'on vient d'ouvrir le bureau de vote ici au centre-ville, le bureau de vote d'Imara. Ça, c'est, le bureau de vote est situé à plus de 300 mètres du bureau provincial de la CENI. Et déjà, la population s'inquiétait. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est à peine qu'on vient d'ouvrir. Et maintenant, on sent que les gens sont en train d'aller. Même les observateurs, les témoins vont prendre possession des bureaux où ils seront observateurs et témoins. Mais l'information principale, c'est à Mitouaba, où on vient de nous signaler par les membres de la société civile qu'il y a eu attaque de Maïmaï au bureau de vote de Mitouaba. C'est cette situation qu'on est en train de suivre de près. Mais sinon... le calme ici à Lubumbashi. Dans d'autres bureaux, on a déjà ouvert depuis 6 heures et l'ambiance est assez bonne. Mais sur le plan organisationnel, bon, toujours des petits couacs. On suit de près l'évolution.
Alors, Narval, vous avez couvert évidemment pour VOA Afrique cette campagne électorale jusqu'à hier, hein, qui était un jour de repos pour les candidats avant l'élection. Alors, quel est l'état d'esprit des Congolais? Est-ce qu'il y a une mobilisation? Est-ce que vous sentez qu'il y aura quelque chose de différent pour cette élection par rapport aux précédentes?
Bon, l'ambiance est assez mitigée parce que il y a une certaine méfiance entre les l'organisation, la CENI, les membres des partis politiques, ceux qui sont la majorité, ceux qui sont l'opposition. Mais c'est dans cette ambiance assez morose entre même ceux qui sont de l'Union Sacrée qui s'entrent dedans depuis le début de la campagne jusqu'au dernier jour. Et c'est dans cet environnement que nous vivons où on ne fait pas confiance à qui que ce soit, où les gens sont prêts à s'entrer dedans. Et comme vous l'avez suivi, je viens de le dire, qu'à Mitouaba, déjà, il y a une tension, attaque Maïmaï, et les gens sont assez très méfiants face à cette organisation. Mais nous espérons que l'ambiance sera assez bonne ici à Lubumbashi, mais c'est trop tendu.
Merci beaucoup, Narval. Merci à tous nos envoyés spéciaux et correspondants mobilisés toute cette journée électorale que vous pouvez suivre en direct sur VOA Afrique, sur notre site web voaafrique.com et sur l'ensemble de nos partenaires radio et télé partout en Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité au Niger, plus de 4 mois après le coup d'État mené par le général Abdourahmane Tiani, l'Allemagne relance des discussions avec ce pays qui accueille plus de 100 soldats de la Bundeswehr, l'armée allemande. Le ministre de la Défense allemande était mardi à Niamey et s'est entretenu avec les responsables du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, l'organe dirigeant du pays. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Boris Pistorius a dit avoir eu une conversation très ouverte avec son homologue nigérien, le général Salifou Modi. Nous souhaitons reprendre les projets de coopération. Même après la prise du pouvoir, nous n'avons pas tout arrêté, a notamment déclaré à la presse le ministre allemand. Comme plusieurs autres pays, des soldats allemands sont présents au Niger. Ils sont un peu plus de 100 stationnés à la base aérienne de Niamey. Depuis le coup d'État, la question de la présence militaire étrangère sur le sol nigérien est un sujet régulièrement évoqué par la population et les nouvelles autorités. Le ministre nigérien de la Défense est revenu là-dessus lors de son entretien avec son hôte du jour.
On ne se lève pas du jour au lendemain pour venir s'asseoir dans un pays avec des armes, avec des chars, mais il y a des conditions. Et dans ce cadre, nous allons voir avec les Allemands les nouvelles conditions. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le stationnement des troupes étrangères au Niger vont être désormais soumises à l'appréciation des Nigériens.
La dernière visite du ministre allemand au Niger remonte au mois d'avril dernier où il soulignait la collaboration étroite entre son pays et le Niger qu'il a qualifié de point d'ancrage de stabilité régionale. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au moins 10 personnes ont été tuées et brûlées lors d'une attaque hier d'un village du sud-ouest de l'Ouganda, une attaque attribuée par les autorités aux rebelles des ADF, forces démocratiques alliées, affiliées au groupe État islamique. Le point avec Jacques Aristide.
Les premiers éléments de l'enquête indiquent que 10 assaillants armés de mitraillettes ont attaqué et brûlé des habitants de Kiteuriza, situé dans le district de Kamwenge, a déclaré Vincent Twesige, le porte-parole de la police régionale. Selon lui, les assaillants étaient des membres des ADF ayant traversé la frontière depuis la République démocratique du Congo voisine. Toujours d'après Vincent Twesige, les rebelles présumés ont pillé un commerce, emportant dans leur fuite des sacs de haricots, du maïs, des œufs ou encore des pommes de terre. Des militaires ougandais ont été dépêchés à Kiteuriza. L'Ouganda et la RDC ont entamé une offensive conjointe en 2021 pour chasser les ADF de leur bastion congolais sans parvenir jusqu'à présent à mettre un terme aux attaques du groupe. En mars dernier, les États-Unis ont dit offrir une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information susceptible de mener au chef des ADF, un Ougandais d'une quarantaine d'années nommé Moussa Baloukou.
Quatre fonctionnaires français, des agents de renseignement selon une source burkinabé, des techniciens de maintenance informatique selon une source diplomatique française, ont été arrêtés à Ouagadougou début décembre, a-t-on appris hier soir, dans un contexte de relations très tendues entre le Burkina et la France. Nous sommes en train de vérifier le véritable travail de terrain de quatre ressortissants français présentés comme des agents de la DGSE. Ils sont actuellement devant les enquêteurs, a indiqué la source burkinabé. De son côté, une source diplomatique française a déclaré que ces quatre techniciens étaient au Burkina Faso pour réaliser une opération de maintenance informatique au profit de l'ambassade de France. Le 14 décembre, ils ont été mis en examen et transférés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, a précisé la source diplomatique française. En Guinée, le bilan de l'explosion et de l'incendie du principal dépôt de carburant du pays est passé de 14 à 18 morts mardi soir et le gouvernement a annoncé pour ce mercredi la réouverture minimum des administrations du centre-ville de Conakry et la reprise des approvisionnements en gazoil sur tout le territoire. Dans la nuit de dimanche à lundi, le souffle de l'explosion et l'incendie qui a suivi dans la zone portuaire de Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry, ont provoqué d'importants dégâts matériels et mis à l'arrêt l'économie. Une enquête judiciaire pour des faits présumés d'incendie volontaire a été ouverte par le procureur général pour déterminer les causes du sinistre et situer les responsabilités. Aucune information n'est disponible sur l'origine de l'incendie. Ici aux États-Unis, la Cour suprême du Colorado a déclaré mardi Donald Trump inéligible à la présidence en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole. Par une majorité de 4-7, la Cour suprême du Colorado a confirmé la décision de première instance, concluant que Donald Trump s'était livré à une rébellion le 6 janvier 2021 lors de l'assaut du Capitole. Tous les regards sont désormais tournés vers la Cour suprême des États-Unis, devant laquelle l'ancien président républicain va se pourvoir, selon un de ses porte-paroles. Le chef du Hamas doit se rendre en Égypte ce mercredi pour discuter d'un cessez-le-feu à Gaza après qu'Israël a indiqué être prêt à accepter une nouvelle pause en échange d'otages. Les discussions doivent porter sur l'arrêt de l'agression et de la guerre pour préparer un accord de libération de prisonniers palestiniens. La fin du siège imposé à la bande de Gaza a expliqué une source au sein du Hamas. De son côté, le président israélien Isaac Herzog a déclaré mardi qu'Israël est prêt à une nouvelle pause humanitaire et à une aide humanitaire supplémentaire pour permettre la libération des otages. Après plus de 2 mois de guerre, les deux camps semblent multiplier les signaux en faveur d'une seconde trêve après celle d'une semaine qui avait permis la libération de 105 otages du Hamas contre 240 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. En République démocratique du Congo, les violences électorales menacent le déroulement du scrutin de ce 20 décembre selon Human Rights Watch. L'ONG dit avoir documenté des affrontements à travers le pays entre des partisans de partis politiques rivaux qui ont conduit à des agressions, des violences et au moins un décès. Antoine Roger Bolamba a joint Thomas Fessy, chercheur principal sur la RDC à Human Rights Watch.
Oui, en effet, la campagne électorale qui vient de prendre fin a été tendue au Congo. Elle a été émaillée de violence. Nous avons documenté des affrontements entre militants de partis politiques rivaux, des cas de violence sexuelle même et de mort. Il y a eu des actes de vandalisme contre des bureaux de partis et des actes d'intolérance politique. Et malheureusement, cette violence a continué d'ailleurs en fin de semaine dernière, depuis la publication de notre rapport. Il y a eu encore des violences dans des rassemblements, des blessés. Il y a même eu un mort dans le sud-est du pays, à Fungurume. Il y a eu un candidat à la députation UDPS qui a été tué dans le sud Kivu, à Uvira. Un autre candidat, lui aussi affilié au parti présidentiel, qui a été tué dans une embuscade à Beni. Donc c'est une fin de campagne extrêmement violente et tendue. Ces violences pourraient menacer le déroulement du scrutin si rien n'est fait pour les empêcher et pour que cette situation déjà dangereuse ne dégénère.
Selon vous, qu'est-ce qui serait principalement la cause ou bien à la base de ce genre de violences, selon vous?
C'est l'intolérance politique qui a plané sur cette campagne électorale et les tensions politiques entre partis politiques rivaux, notamment des tensions qui se basent sur, pour l'opposition par exemple, un manque de confiance dans le processus électoral, le fait qu'il n'y a pas eu une transparence totale sur les diverses étapes des préparatifs électoraux. De l'autre côté, entre rivaux, voilà cette intolérance politique qui fait que on n'a pas toujours accepté que les rassemblements se tiennent ici et là.
La campagne électorale s'est arrêtée hier et éventuellement, maintenant, nous sommes à quelques heures, si vous voulez, à un jour pratiquement du scrutin. Comment éviter ce type de conflit, ce type d'intolérance politique, ce type de violence à la veille des élections, même après les élections?
Les autorités congolaises devraient évidemment assurer la sécurité et la sûreté de tous les observateurs électoraux mobilisés dans le pays, qui ont un travail colossal à effectuer.
Thomas Fessy, chercheur principal sur la RDC à Human Rights Watch.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Les élections en RDC sont suivies de près par de nombreux Congolais de la diaspora. C'est le cas de Bobilia et sa famille qui vivent désormais ici aux États-Unis dans l'État du Texas. Ils ont passé de nombreuses années en Tanzanie avant d'obtenir la réinstallation aux États-Unis en 2016. À Houston, Bobilia exprime ses attentes au micro de Blanche Sanou qui est allée à sa rencontre.
À la veille des élections en République démocratique du Congo, les électeurs ont exprimé l'espoir que le scrutin serait bien organisé et se déroulerait sans violence. Dans sa ferme depuis Houston, Bobilia a des attentes pour le vote dans son pays d'origine.
Je vis aux États-Unis depuis 11 ans avec ma famille et mes enfants. Mes attentes pour notre pays, le Congo, c'est d'avoir la paix. Les élections arrivent et le peuple congolais pourra choisir le nouveau président. Je demande en premier à celui qui sera élu d'apporter la paix à l'ensemble du Congo. Parce que la paix dans le pays et dans le monde est importante. Même si vous n'avez pas de nourriture et que vous êtes dans un endroit paisible, vous vous sentirez bien. Ensuite, je souhaite le développement et la scolarisation des enfants. Et les agriculteurs devraient être propriétaires au Congo, être reconnus. Et les aliments qu'ils cultivent au Congo doivent être disponibles sur le marché. Je demande l'éducation des enfants, de tous les enfants, pas seulement de moi, mais des enfants du monde entier. Parce que l'école est la chose la plus importante dans la vie d'une personne. Si vous allez à l'école, vous ne serez pas des mendiants, vous n'allez pas voler. Mais si vous avez de la chance d'aller à l'école, votre vie sera faite de travail grâce aux leçons que vous avez étudiées. C'est pourquoi je prie pour l'éducation des enfants. Que tous les enfants aillent à l'école, que Dieu leur donne une éducation.
Originaire de la province du Sud, Kivu, Bobilia se désole du fait que les électeurs des zones occupées par les combattants du M23 ne pourront pas voter mercredi.
Comme le vote n'a pas encore eu lieu et comme je ne connais pas celui qui va être élu, je demande à celui qui sera choisi de diriger le pays avec la volonté de Dieu. Qu'il ne compte pas seulement sur son intelligence pour diriger le pays, car il ne s'en sortira pas s'il ne suit pas la volonté de Dieu.
Plus d'un million de personnes ont été déplacées à cause des affrontements armés, selon les chiffres publiés fin novembre par l'Organisation internationale pour les migrations.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Ici aux États-Unis, au nord de la capitale Washington, l'Université du Maryland accueille plus de 5000 étudiants étrangers, la plupart poursuivant des études de maîtrise ou de doctorat. Laurel Bowman de la VOA examine les raisons pour lesquelles ils choisissent d'étudier aux États-Unis et ce dont ils ont besoin pour réussir. Le récit est de Lionel Gaïma.
Kemi Boussari est journaliste au Nigeria. Il a choisi de faire son doctorat en journalisme aux États-Unis en raison de la renommée mondiale de ses professeurs.
J'ai regardé la faculté et j'ai vu des professeurs qui ont été journalistes à un moment de leur vie et qui enseignent maintenant à l'université. Ce sont également des professeurs dont j'ai lu certains travaux sans même savoir que je finirais à l'Université du Maryland.
L'Indien Himanshu Survey, étudiant en maîtrise, estime que les cours d'ingénieurat des télécommunications aux États-Unis sont plus pratiques que ceux qu'ils recevaient ailleurs.
Les États-Unis offrent une bonne exposition en matière de formation. L'accent est mis davantage sur la formation pratique que sur la théorie, de sorte qu'il est beaucoup plus facile de faire le lien avec ce que l'on apprend ici.
Jody Heckman-Bose, directrice associée au service des étudiants étrangers à l'Université du Maryland, explique que de nombreux étudiants étrangers décident aussi de poursuivre leurs études supérieures aux États-Unis en raison des possibilités de travail en alternance appelée « graduate assistantship ».
Il s'agit d'un engagement de 20 heures par semaine auprès du département dans lequel vous êtes admis, où vous pouvez travailler en tant qu'assistant d'enseignement, assistant de recherche ou simplement assistant général. Et en échange de ce travail, vous bénéficiez d'une remise de frais de scolarité, ce qui signifie que vous ne payez pas de frais de scolarité.
Elle rappelle aux étudiants étrangers qui souhaitent étudier aux États-Unis qu'ils ont beaucoup de choses à faire, comme organiser le logement et payer le loyer, trouver des colocataires, obtenir une assurance maladie, obtenir des visas, ouvrir des comptes bancaires et demander un numéro de sécurité sociale s'ils veulent travailler.
En tant qu'étudiant étranger, obtenir un logement a été très difficile. Ensuite, il a fallu choisir la bonne banque, les bons opérateurs de téléphonie mobile.
La clé est d'essayer de commencer tôt, avant que les cours ne commencent. J'avais déjà un compte en banque, j'avais déjà fait des progrès en ce qui concerne mon assurance maladie. J'avais déjà fait des démarches pour obtenir ma carte de sécurité sociale.
Madame Heckman-Bose rappelle aux futurs étudiants étrangers que les universités offrent de nombreuses ressources pour les aider à s'installer aux États-Unis. Et après la pandémie de COVID-19, son université a mis en ligne une grande partie de ses activités de sensibilisation auprès des étudiants étrangers.
Nous avons été en mesure d'être en contact avec les étudiants avant leur arrivée. Ainsi, lorsqu'ils sont dans leur pays d'origine et qu'ils attendent de venir aux États-Unis, nous leur fournissons des informations sur le logement, l'assurance maladie et l'obtention d'un permis de conduire.
Aussi, se préparer longtemps à l'avance peut aider l'étudiant étranger à trouver son chemin aux États-Unis et peut-être même réaliser le rêve américain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Aux États-Unis comme ailleurs, c'est déjà l'ambiance des fêtes de fin d'année et comme de tradition chaque année, des foules de touristes et de locaux sont attirés par les grandes vitrines des magasins de New York. Aaron Ranen nous entraîne dans une visite guidée à Manhattan. Le récit est de Michel Joseph.
C'est la période des fêtes à New York. Les rues sont bondées de visiteurs et d'habitants désireux de voir les chefs-d'œuvre illuminés, les vitrines des grands magasins et des détaillants emblématiques de la ville. Diane Lowery est venue de Denver, dans le Colorado.
Ils sont fabuleux, ils sont au top. Ils sont fabuleux, vous ne verrez jamais rien de tel. Je viens chaque année pour les voir et chaque année, ils ne me déçoivent pas.
Christy Rushing est venue du Kentucky.
Parce qu'ils sont brillants, spectaculaires. Je veux dire, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. La plupart du temps, je le fais sur Internet. Alors, être ici et voir tout cela est tout simplement merveilleux. Et j'apprécie aussi la partie shopping.
Ces étalages éblouissants ne se contentent pas de divertir et d'attirer les clients. Ils génèrent aussi beaucoup de revenus aux grands magasins à l'ère du numérique. Anne Kang est professeure à l'Institut de technologie de la mode.
They're a vital tool for retailers. And, you know,
ils sont un outil essentiel pour les détaillants. Ils servent de pont entre le physique et le numérique de la vente au détail. Elles offrent de grandes possibilités de raconter des histoires et d'engager les clients d'une manière unique.
Ces vitrines, pour la période des fêtes, ornent les rues de New York depuis plus d'un siècle. Anne Kang, professeure à l'Institut de technologie de la mode.
Les fenêtres de vacances et les vitrines en général remontent à la fin des années 1800 ou au début des années 1900 et étaient beaucoup plus raffinées. Les fenêtres de Noël ont toujours été un cadeau pour la ville.
Cette année, l'offre comprend la vitrine de diamants de Tiffany, les scènes de New York et de Paris de Saks sur la 5e avenue, réalisées en collaboration avec Dior, les effets de lumière, de chrome et de miroir de Bergdorf Goodman et le partenariat sur le thème de Wonka de Bloomingdale qui s'inspire du nouveau film de Warner Brothers. John Klimkowski est vice-président du merchandising visual et des vitrines du grand magasin Bloomingdale.
Lorsque nous avons conçu les vitrines, nous avons vraiment cherché à faire ressortir l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Les petites touches et les détails de paillettes et les bonbons qui composent une veste commencent vraiment à surprendre et à ravir l'observateur.
Selon M. Klimkowski, ces vitrines incitent aussi les acheteurs en ligne à se rendre physiquement dans les magasins.
Lorsque vous êtes totalement immergé dans l'expérience dans la rue, lorsque vous regardez les vitrines et que vous êtes ravi, vous ne pouvez pas égaler cela en restant assis sur votre canapé à la maison.
L'animation des rues et l'engouement des passants devant ces vitrines spectaculaires sont une autre preuve que les traditions ont la peau dure et qu'elles ont encore un bel avenir à New York.
C'est déjà la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa. Ainsi va le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24/24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique.